Et on commence tout de suite cette émission mensuelle Histoire d'archives avec le directeur des archives départementales, Jean-Christophe Labadie. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, de quoi allez-vous parler ?
Alors écoutez, je vais vous parler de plusieurs choses. Tout d'abord, faire un petit peu un point sur notre activité en 2016. Vous savez, les débuts d'année, c'est le temps des bilans. Comme toutes les administrations, eh bien, nous avons aussi, nous, dressé le bilan. Alors on fait donc ce bilan en janvier parce qu'il nous est demandé par le ministère. Donc en suivant une grille, on essaie de balayer un petit peu toutes nos activités. Pour voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'il en a été de l'année, et puis un petit peu comparer par rapport aux années précédentes, et puis évidemment faire un petit peu de prospective. Effectivement, le bilan s'accompagne toujours d'un projet, et ce projet, c'est celui qu'on va développer donc en 2017, et puis qu'on poursuivra aussi en 2018, car nous travaillons aussi avec le temps scolaire, et on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va proposer à partir de septembre jusqu'à juin donc 2018.
Donc ce projet, vous allez le développer à partir pour septembre.
Voilà, en fait, on sait ce qu'on va faire évidemment dans le premier semestre, hein, puisque ça c'était déjà programmé, mais on est en train effectivement de préparer notre projet, donc surtout à destination des scolaires hein, en particulier, donc pour l'année scolaire suivante, donc 2017-2018. Et même on est en train de réfléchir déjà à ce qu'on va faire en 2019, parce que nous allons arriver à la fin d'un cycle, donc notre cycle consacré à la guerre de 14-18, hein, puisque par définition, nous allons inaugurer en septembre notre dernière exposition, qu'on fera durer sans doute jusqu'au 11 novembre 2018, et après on enchaînera avec une nouvelle exposition dont pour le moment je réserve la teneur pour garder un petit peu de suspense. Voilà.
D'accord.
Voilà. Mais on va changer tout à fait de thème, hein. On va sortir de la guerre pour aller vers autre chose. Je voulais d'abord vous parler donc de ce bilan parce que ça permet effectivement de savoir ce que c'est qu'un service d'archives. Hein. Je rappelle que nous sommes 22 agents donc à travailler dans ce service, qui n'est pas rien. Ce qui étonne souvent d'ailleurs les personnes que l'on rencontre, hein, ils imaginent en fait que c'est un tout petit service, qu'il y a quelques personnes qui travaillent, et souvent ils imaginent que le travail c'est simplement ranger des documents sur des rayonnages, et puis les communiquer aux quelques rares personnes qui viennent consulter les archives dans notre salle de lecture. En réalité, notre métier est bien plus varié que cette image un petit peu. Je voudrais simplement donner quelques chiffres. Hein. Je rappelle que nous conservons à peu près 11 km d'archives, hein, ce qui n'est pas rien. Alors, vous savez, on parle en kilomètres linéaires, hein, on a du mal à imaginer, mais en fait, c'est la largeur des boîtes, hein, tout simplement. Une boîte d'archives standard faisant 10 cm, donc 1 mètre, c'est 10 boîtes, 100 mètres, c'est 100, enfin, etc. Hein, voilà. 100 mètres, donc c'est 1000 boîtes. Voilà, donc nous raisonnons vraiment en termes de boîtes, et donc de mètres et de kilomètres linéaires quand ce sont des. Évidemment, des grandes quantités. On parle aussi en mètres cubes. Hein, quelquefois, on a des correspondances entre le cubage et les mètres linéaires pour certains cas. Puisque quelquefois, les archives sont mises en palettes. Hein, donc, ce qui explique ce calcul. Voilà. Donc, 11 kilomètres d'archives, 22 agents. Nous avons en fait donc réalisé des opérations de numérisation. Donc, on a en fait externalisé cette opération. C'est-à-dire qu'on a confié à un prestataire. Car nous avions, à une certaine époque, beaucoup microfilmé les archives. C'était la méthode à l'époque pour reproduire les archives en masse. Et évidemment, les temps ont changé. Lire un microfilm, c'est devenu compliqué. Les machines tombent les unes après les autres en panne. On a très peu de lecteurs qui sont encore habitués à ce genre de lecture. Et puis surtout, on ne peut pas mettre un microfilm en ligne. Donc on a fait donc numériser nos microfilms, ce qui se fait tout à fait bien. Et on a comme ça quand même réalisé 482 000 numérisations, hein, 482 000 pages en fait hein, de numérisation. C'est incroyable. Enfin, ça paraît fou dans la mesure où. Depuis qu'on fait de la numérisation dans le service, on avait numérisé finalement que 1,3 million documents et pages. Vous voyez, donc la proportion est énorme, mais c'est une machine hein, qui a fait le travail, puisque c'est l'automaticité, évidemment. Donc voilà. Donc le problème n'est pas tellement d'ailleurs de faire la numérisation, c'est après de traiter ce fonds. Hein, que vous imaginez, la personne qui s'occupe des fonds d'archives numérisés, il y a eu un énorme travail à réaliser. D'autant plus qu'on ne s'est pas limité à cette activité, on a aussi fait numériser nos affiches. plus de 9000 affiches, donc certaines à très grand format. Donc là, on attend leur réception. Normalement, ça devrait être fait au début du mois de mars. La forme numérique devrait arriver un peu plus tôt, évidemment, parce que ça, c'est un simple disque dur. Et puis, il y aura aussi à traiter, évidemment, à reconditionner les affiches et à traiter aussi ces documents. Voilà, donc il y a un gros travail qui va se réaliser cette année, donc en fait, qui va être un travail de repérage, en fait, hein, de nommage, comme on dit, pour remettre un petit peu d'ordre dans ces documents.
Voilà. Alors, quand vous parlez de microfilms qui sont donc numérisés, oui. Quand on parle des 11 km d'archives, est-ce que c'est...
Ah non, ce n'est pas dedans. Non, non, ce n'est pas compris.
Ce n'est pas dedans.
Non, c'est vraiment que du papier, là. Quand je vous parle des 11 km, c'est du papier et du parchemin.
Ça, ce ne sera pas numérisé.
Non, alors... On numérise aussi les documents papier, hein, évidemment, hein, mais on le fait, évidemment, ça va beaucoup moins vite. Quand on a fait, par exemple, les registres matricules militaires, on a numérisé, je crois, 55 000, ça représente en fait 55 000 pages, vous voyez, donc ce qui est beaucoup à la fois et en même temps pas très important quand vous comparez par rapport aux chiffres que je viens de vous donner. Mm-hmm. Voilà, et ce travail-là nous a demandé des mois de travail. C'était trois agents qui ont travaillé en se relayant. Il y a un service, le 05, dans le département des Hautes-Alpes. Les archives se sont lancées dans des grandes campagnes de numérisation et je crois de me souvenir que l'année dernière, ils ont trois agents qui travaillent en permanence sur la numérisation, ils ont réalisé 144 000 images numériques, ce qui est finalement... Alors c'est beaucoup évidemment, mais en même temps quand vous comparez à la masse documentaire que représente 11 km d'archives, ça relativise beaucoup le chiffre, vous voyez. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait évidemment ça sera des années et des années et des années de travail, nonobstant le fait que les archives elles continuent d'arriver, vous voyez. Donc, vous voyez la difficulté en fait c'est un combat presque perdu d'avance, mais en réalité non, parce que on ne numérisera pas tout. On a des priorités, hein. Ça a été d'abord l'état civil, hein, pour les généalogistes, et puis ensuite ça a été les plans cadastraux, hein, du plan du cadastre napoléonien. On a fait aussi les recensements de population pour les généalogistes, etc. Donc ça, on a visé en fait des séries. Mais quand vous regardez ce que ça représente dans un service d'archives, ce n'est pas énorme en fait en mètres linéaires. C'est quelques dizaines de mètres. Donc ça paraît beaucoup. Évidemment, c'est une grande ressource pour les généalogistes. Mais c'est assez dérisoire quand on compare à la masse générale. Il y aurait beaucoup de choses à faire. Il y a des services qui sont lancés dans les numérisations des notaires. Nous, les notaires, on en a 1,2 km, vous voyez, 22 000, je crois, registres de mémoire, hein, 22 000 registres, vous imaginez, et quand je dis 22 000 registres, il y a des registres qui font 1200 pages, vous voyez, donc c'est énorme, quoi, voilà. Là, actuellement, on est en train de faire des opérations de dépoussiérage. Donc on prend les registres de l'Ancien Régime, hein, un par un, avec un petit aspirateur, vous voyez, à main, un système en fait qui est fait pour. Hein, donc on peut régler le débit avec des filtres qui empêchent évidemment toute contamination. On a fait quoi? Dans une année, on a dû faire 10 mètres, vous voyez, donc 10 mètres... Quand vous avez 1,2 km, vous voyez, ça relativise beaucoup. Mais 10 mètres, plus 10 mètres, plus 10 mètres, vous voyez, c'est le principe même de l'archiviste. Hein, c'est chaque jour remet à peine, en fait. Hein, c'est tous les jours, ou pas un jour sans une ligne, comme je dis souvent, en reprenant l'expression d'Antiquité, en fait, qui s'appliquait d'ailleurs à un peintre. Enfin, l'idée, c'est de ne jamais arrêter, de toujours faire. Et l'addition, en fait, hein, vous voyez, des petites tâches comme ça, fait qu'au bout du compte, on arrive à avoir un résultat qui est probant et qui s'inscrit dans le temps, en fait. Puisque ce qu'on ne fait pas, par définition, eh bien, il faudra le faire un jour. Donc, autant le faire tout de suite. Voilà. Mais ça, c'est vraiment... c'est le travail ordinaire de beaucoup d'agents du service. Hein. C'est-à-dire, en fait, c'est cette application permanente, cette routine, hein, d'une certaine manière, à nettoyer les pages dans les reliures. Vous savez, on tourne les pages et puis on passe l'aspirateur, en fait, à la jonction des pages, évidemment, à la reliure, hein, parce que c'est là qu'en général les poussières se mettent. Et on trouve de tout. On trouve quelquefois des grains. Moi qui l'ai fait à une certaine époque, on trouvait même des épis, vous voyez, enfin, des choses comme ça, quoi. Je me disais toujours
ça. Quels sont vous parlez de 22 agents. Alors, voilà. Est-ce qu'ils ont tous les mêmes missions?
Non, évidemment. Donc ça c'est un des aspects du travail. En réalité, il y a ce qu'on appelle le service. En fait, est divisé en trois unités. Hein. Et donc ça, c'est l'unité conservation qui s'en occupe. Et l'unité conservation ne fait pas que ça. D'ailleurs, elle fait aussi du conditionnement. On a beaucoup conditionné. C'est-à-dire, en fait, on reprend les documents qui sont arrivés quelquefois qui étaient tenues par des ficelles. Alors, vous savez, moi, je catégorise les ficelles, je l'ai déjà dit, hein, les ficelles de cochon, les ficelles bottes de paille, etc. Voilà, en fonction des époques, hein, qui ont le grave inconvénient de découper les pages, en fait. Hein, ça coupe les pages. Donc on reprend tout ça, on reconditionne, donc déjà on nettoie, on dépoussière, on reconditionne ça dans les règles de l'art avec du papier neutre, du ruban en coton blanc, hein, écru en fait, pour éviter à la fois une déperdition de la qualité donc, de l'archive, hein, donc c'est le fait du papier neutre, et puis des transferts de couleurs, c'est-à-dire que si on avait des rubans de couleurs, on risquerait évidemment, en cas d'un problème, par exemple un dégât des eaux, qu'il y ait des transferts de la couleur, évidemment, sur le, voilà. Et puis dans des boîtes qui sont des boîtes Cochard, qui est une marque en fait, hein, mais qui est en fait une boîte très utilisée dans les services d'archives départementales, qui a des qualités chimiques, hein, donc une certaine neutralité, et puis des qualités mécaniques aussi, hein, qui protègent bien les documents, ce qui fait qu'on peut les déplacer, vous voyez, sans difficulté, on peut les ranger sans que, vous voyez, ils se frottent les uns contre les autres, etc. Donc voilà, donc ça, tout ça, c'est un travail très, c'est le travail de base en fait, hein, puisque je rappelle que le directeur des archives départementales, c'est un conservateur, hein, vous voyez, donc le premier but d'un service d'archives, c'est d'abord de conserver les documents, et donc de les conserver dans le mieux possible, donc ce qui fait que quand ils rentrent, on essaie de faire en sorte que les services qui nous les versent le fassent dans de bonnes conditions, hein, c'est-à-dire dans des bonnes boîtes, etc. Et puis, évidemment, il y a tout ce qui était déjà là, hein, qui sont marqués par une époque, hein, où on reprenait, vous savez, les vieilles chemises, vous savez, on retournait les vieilles chemises pour les réutiliser, voilà. Il y a même quelquefois, on utilisait des enveloppes, vous savez, les enveloppes des usagers, vous voyez, pour mettre des documents à l'intérieur, vous voyez, enfin, c'était de la récupération. On enlève tout ça, on enlève aussi tout ce qui est métallique. Hein. Souvent, les administrations avaient cette fâcheuse manie, mais qui était les usages de l'époque, hein. Il ne faut pas juger ce qu'il était, de mettre des trombones. Et puis, avant les trombones, on avait les aiguilles. Alors, on enlève des fois des quantités absolument incroyables d'aiguilles. On s'amuse d'ailleurs à en faire des collections dans des pots de confiture d'aiguilles de toutes sortes, hein, des aiguilles du 17e, du 18e, du 19e et du 20e, avant que les trombones chassent les aiguilles. Mais les trombones ont un grave inconvénient, c'est qu'ils rouillent facilement. Et donc, quand ils rouillent, évidemment, ils détruisent la partie qui est accrochée. Et quand on les enlève, évidemment, ça déchire tout. Et donc, c'est très problématique. Le trombone est un souci. L'aiguille est beaucoup plus simple, sauf que l'aiguille pique. Voilà. Donc, il faut faire très attention, évidemment. Il faut être vacciné. Voilà. Mais ça, c'est pas le travail de tous les... Hein, c'est vraiment le travail de cette unité. Hein, c'est quelques agents. C'est aussi tous ceux qui manipulent les archives, hein, qui les amènent, qui les prennent au moment du versement, qui les montent dans les magasins, qui les descendent pour les lecteurs. Donc ça, c'est le rôle de cette unité. Et puis, c'est aussi un travail de restauration, puisqu'on a un agent, hein, qui est spécialement dédié à cette tâche, hein, qui est relieur restaurateur et qui fait ce qu'on appelle des petites restaurations. Soit des déchirures, vous voyez, soit renforcer un document, soit aussi, quelquefois, faire des reliures, hein, tout simplement, pour des reliures d'ouvrages même, qui sont abîmés, qu'il s'agit de faire de manière, on va dire, la moins onéreuse possible, parce que, évidemment, comme toujours, hein, vous savez, on hiérarchise les documents, il y a des documents qui ne méritent pas, évidemment, d'investir trop de temps et d'argent dessus. En revanche, quand on a des documents qui sont très abîmés, comme par exemple les notaires, et qu'on met en restauration, là, on externalise là aussi, et donc on a un budget conséquent pour faire ces opérations.
Donc un travail qui demande d'être très méticuleux. Est-ce qu'il y a des accidents? C'est une sacrée responsabilité pour les agents.
Alors en fait, il y a très peu d'accidents, mais je crois que c'est un peu général. Hein. Je crois que quand même, là, il y a eu beaucoup de progrès par rapport au problème des accidents du travail. En fait, souvent, le problème qu'on peut rencontrer, c'est la poussière, en fait. Hein, mais on ne la raconte pas tellement dans nos magasins, parce que nos magasins, je rappelle, hein, il n'y a pas de poussière.
Hein, oui. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une température
ou... Oui, alors voilà. En fait, on est dans des systèmes de magasins qui sont avec des conditions climatiques qui sont contrôlées. Et en particulier deux critères, effectivement. La température, qui doit être autour de 18 degrés, avec une variation évidemment possible, et un taux, une humidité qui est de l'ordre de 50%, hein, donc un taux d'hygrométrie qui est aussi là aussi contrôlé, et un système de ventilation. en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, l'air est en permanence aspiré, régulé, c'est-à-dire en fait, en fonction de son humidité, on en rajoute ou on en enlève, hein, et puis on la réinjecte. Ce qui fait que cette circulation de l'air est fondamentale pour éviter que les spores, hein, qui pourraient entraîner des contaminations, se déposent. Hein, c'est le principe de l'aération, en fait. Hein, voilà. Donc on est dans un système comme ça. Il y a pas, c'est pas un, c'est, certains magasins sont dans ce cas-là, mais ce n'est pas une climatisation. Hein, c'est vraiment un contrôle de l'air qui permet effectivement d'éviter d'avoir la poussière, hein, tout simplement, parce que d'abord, les documents, quand ils rentrent dans nos magasins, sont dépoussiérés. Ils ne rentrent pas sales. Hein, quand ils sont sales, on les laisse sur le quai de, enfin, on a un quai de déchargement et dans une salle d'accueil. On les laisse même des fois, ils sont un peu humides, on les laisse bien sécher. Et c'est ensuite qu'on les dépoussière. Donc il y a une grosse machine hein, qui a été d'ailleurs fabriquée par les agents, hein, qui... avec un compresseur, etc., enfin quelque chose de très assez sophistiqué, qui permet de faire un grand dépoussiérage, on va dire, grossier, mais tout à fait utile pour, dans certains cas. Donc on fait cette opération-là, et quand ça rentre après au tri, donc dans la salle de tri, s'il y a encore à nettoyer, il y a donc ce petit aspirateur magique, enfin, voilà, où on nettoie effectivement, dans le détail, des documents qui méritent vraiment de, vous voyez, de faire un effort pour les nettoyer, hein, c'est-à-dire des documents anciens, qui sont un peu vulnérables, etc. Et c'est seulement après avoir été nettoyés, conditionnés, qu'on les monte en magasin. Donc, en principe, dans les magasins, il n'y a pas de poussière. Le ménage est très régulièrement fait. Et puis, ce système de ventilation évite effectivement, évidemment les contaminations. Voilà. Donc, notre problème, c'est contrôler ça, en fait. Hein. C'est vraiment...
Et le pas... taux d'humidité, vous parlez
50%, oui.
50%. Oui. Et comment on régule un taux d'humidité à...
Alors, en fait, simplement, on prend l'air et on calcule son humidité. Si il y en a trop, on enlève de l'humidité et on la réinjecte. Voilà. C'est le principe. C'est une air, c'est de
ça
l'air
a l'air
qui
simple,
monte.
Hein.
Oui, c'est une grosse machine, quand même, qui fait ça. Mais qui est sur le toit, d'ailleurs... sur le toit des archives et qui fait ces opérations-là, qui a d'ailleurs été changée il y a quelques années, enfin il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ans je crois, qui permet justement de réguler ces conditions climatiques qui sont évidemment très très importantes. C'est le minimum en fait pour la conservation. Après il y a d'autres choses, hein. Il y a aussi la manière dont on range les documents, je vous ai parlé des fameuses boîtes de conservation. Il y a aussi le document dans la boîte, hein, avec tout son système pour le fermer. Ces boîtes aussi empêchent d'ailleurs la poussière de rentrer, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'il peut avoir, évidemment, hein, on pourrait avoir des poussières qui rentrent dans le magasin, mais comme c'est dans des boîtes, ça ne peut pas rentrer à l'intérieur. Donc du coup, on peut même avoir des documents qui ont été contaminés, qui sont dans les magasins, mais les conditions climatiques empêchent. Vous voyez, le départ d'une nouvelle contamination. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en attente. Voilà. Et tant qu'on est dans ces conditions-là, il n'y a pas de problème. Le risque, c'est évidemment la chaleur, l'humidité. C'est-à-dire que si vous avez les deux éléments qui se combinent, là, vous risquez vraiment une contamination. Il y a d'autres phénomènes. On peut avoir aussi des insectes. Hein. C'était le cas, je crois, en 2008 aux archives départementales. Il y a eu une importante contamination avec des insectes. Donc, il a fallu faire un traitement au gaz, etc. Donc, un traitement lourd, compliqué, qui a mobilisé les agents, qui a vraiment arrêté presque la vie du service pendant un certain temps. Heureusement, ce n'est plus arrivé depuis. C'est contrôlé. On a des systèmes aussi... pour neutraliser tous les insectes volants, vous voyez, hein, rampants. On a même des souricides. Enfin, on n'a jamais eu de souris, hein, mais tout est prévu, vous voyez, au cas. Et on a une société qui vient tous les mois faire des relevés, hein, qui compte les mouches, les insectes, pour savoir effectivement. Et il arrive qu'on ait, hein, de quelques insectes indésirables, on va dire, mais en très faible quantité, parce que la question, c'est toujours la quantité. Et donc, ça n'entraîne pas de traitement, mais ça entraîne simplement une surveillance un peu plus de vigilance, si vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment... Ça paraît... Mais vous voyez l'attention qu'on porte aux archives, en fait. Hein, ce n'est pas... c'est, en fait, on le fait parce que c'est notre patrimoine. Vous voyez, enfin, c'est vraiment... on pourrait dire, mais pourquoi mobiliser tant de moyens? Parce que tout ça, évidemment,
ça a
un coût
important.
Bien sûr, hein, un coût humain, un coût financier. Et puis pendant ce temps-là, on ne fait pas autre chose. Hein, donc, voilà. Mais c'est très utile parce que c'est le seul moyen de conserver les documents. Pensons quand même que nous avons des documents qui datent du XIIIe siècle, hein, qui sont très anciens et qui sont dans un état satisfaisant parce que à chaque époque, on a fait en sorte de bien les conserver. Et donc, en fait, c'est une chaîne un peu. Hein, alors évidemment, les services d'archives... de l'époque n'avait pas toutes ces normes, etc., mais appliquait évidemment aussi les règles, et donc les notaires en particulier, hein, parce que ce sont souvent des documents notariaux qui sont les plus anciens, et ce qu'ils ont conservé avec soin, et bien nous avons aussi la tâche de les conserver avec soin, car ce sont des documents très utiles pour l'histoire. Moi, je n'ose même pas penser, vous voyez, le jour où tout disparaîtrait, mais je me dis, mais comment ferait-on l'histoire ? On ne pourrait plus, enfin, on aurait vraiment beaucoup de difficultés, on aurait perdu notre passé, quoi.
Alors, on parle de conservation, quand on est archiviste, donc on a un peu cette âme de collectionneur, en fait.
Alors, pas du tout.
Non,
pas du tout. Pas du tout. Non,
ah,
non,
oui.
Je crois que le collectionneur, c'est un autre...
C'est encore autre chose.
C'est autre chose. Oui, non, pas du tout. Vraiment, et d'ailleurs, on est quelquefois confronté à des collectionneurs, par exemple, lors des achats d'archives privées. En fait, nous, ce qui nous intéresse, ce sont ce qu'on appelle les fonds. C'est-à-dire, en fait, c'est l'ensemble. C'est pas un collectionneur s'intéresse à des pièces. Vous voyez, j'exagère un peu parce que c'est pas tout à fait vrai non plus. Hein, mais j'essaie de pour ma démonstration, oui, je vais un peu opposer, un peu caricaturer un peu l'un et l'autre, l'une et l'autre position. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est un fond. C'est-à-dire que, en gros, admettons que, je sais pas, quelqu'un aurait 1000 négatifs photographiques, vous voyez, du début du XXe siècle, vous voyez, donc sur Digne. Eh bien, un collectionneur s'intéresserait aux clichés les plus intéressants, vous voyez. Et d'ailleurs, les clichés les plus intéressants auraient sans doute un certain prix, vous voyez. Et puis les autres, qui seraient des clichés d'une grande banalité, n'auraient pas d'intérêt. Pour nous, le but n'est pas d'acheter, vous voyez, ou d'acquérir les 10 clichés ou les 50 clichés intéressants et qui seraient à un prix assez élevé de la collection, c'est d'acquérir toute la collection. Puisque ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a un jour, enfin qui a sa vie durant, par exemple, fait de la photographie, et ce qui nous intéresserait au premier chef, c'est de voir justement, par exemple, ses pôles d'intérêt, vous voyez, l'évolution de ses pôles d'intérêt, l'évolution de l'histoire aussi, vous voyez, au fil du temps, si... Vous avez des photographes, vous savez, qui reviennent régulièrement faire des photos au même endroit pour montrer comment les choses, comment par exemple l'environnement a changé, vous voyez, etc. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc on n'est pas dans l'esprit d'un collectionneur. Vous voyez. Après, on a évidemment le même souci de conserver, hein, évidemment, pour nous, c'est aussi important. Mais dans la démarche, ce n'est pas la même. Pour les archives contemporaines, c'est pareil. Les archives contemporaines... Un collectionneur n'est pas intéressé par les archives contemporaines. Vous voyez, quel intérêt d'avoir des archives des années 1950 pour nous, c'est très important parce que moi, je dis toujours, enfin, mes agents le disent aussi, on est très heureux d'avoir des documents de 1880, vous voyez, qui sont d'une banalité confondante parce qu'ils racontent beaucoup sur la vie des gens. Eh bien, ce qu'on pense vrai pour les années 1880, dans 50 ou 60 ans, on le pensera vrai pour les années 50, vous voyez. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment... ce n'est pas une collection, vous voyez, au sens de belles pièces choisies. Hein, vous voyez, nous, ce qui nous intéresse, c'est des fonds, hein, en termes d'archives, des fonds, donc en fait des ensembles. Et pour les archives contemporaines, souvent, alors c'est Jean Fabier qui était longtemps directeur général des Archives de France, qui disait que pour les archives contemporaines, le fond, c'est le camion. C'est-à-dire que c'est le camion qui amène vous voyez, le versement. Quoi, voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Parce qu'on est plutôt des historiens, en fait. Hein, c'est-à-dire que les archives, pour nous, ne sont pas des belles pièces en tant que telles. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'elles permettent de savoir, en fait. Hein, ce qu'elles permettent de connaître de l'histoire des autres. Ce qui est vrai aussi, d'ailleurs, pour les collectionneurs. Hein, les collectionneurs aussi conservent des belles pièces aussi, parce que ça révèle quelque chose. Mais ce n'est pas... Enfin, vous voyez, l'esprit n'est pas le même. Ouais. Hein, donc on n'est pas vraiment... on n'a pas cet esprit-là. Et moi, d'ailleurs, je ne fais aucune collection. Je ne suis pas du tout collectionneur. Vous voyez, mais par contre, j'ai le souci de faire rentrer des fonds d'archives... parce que c'est intéressant pour la suite, et puis des fonds d'archives qui soient d'ailleurs contemporains ou anciens. On achète aussi des archives très régulièrement. L'année dernière, on a acheté, je crois, 140 pièces d'archives. Pour le coup, on s'est retrouvé confronté à des collectionneurs, hein, puisque ce sont dans des ventes aux enchères. Et là, il y a évidemment aussi ce public-là qui souhaite acquérir des pièces d'archives. Voilà. Donc des signatures, en fait, hein, aussi pour les collectionneurs d'autographes, hein, donc des belles signatures. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la signature, c'est le document. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu différent.
Vous travaillez beaucoup avec des scolaires. Est-ce que justement, vous avez beaucoup de jeunes de troisième qui souhaitent faire des stages d'observation aux archives?
Oui, vous avez tout à fait raison. On a beaucoup de scolaires. Donc, on a effectivement. Alors, je vais différencier effectivement votre question. On a effectivement beaucoup de demandes de stages de troisième qui viennent faire leur semaine de stage d'observation. Hein, oui. Voilà, on le reçoit très, très régulièrement. Et on en est très contents. Et alors souvent, on a quand même des élèves qui ont un certain goût d'histoire, hein, qui sont presque des fanatiques des archives, hein, quelquefois,
oui.
Vraiment,
ah, oui.
Oui, vraiment, oui, c'est qui connaissent, parce que vous savez que les services d'archives, c'est dans le domaine culturel, ce sont les services les moins connus du grand public. Hein, donc, mais il n'empêche que grâce à l'activité de l'école, hein, souvent les écoles viennent aux archives, les professeurs d'histoire parlent des archives, et donc du coup, c'est grâce à ça que souvent les scolaires les connaissent. C'est plutôt les adultes qui connaissent moins, parce qu'à une certaine époque, on venait moins aussi aux archives. Donc voilà, donc là, cette activité-là s'est beaucoup développée. Donc on a effectivement cette joie d'accueillir. Ça se passe toujours très bien. D'ailleurs, tous les stagiaires, on a beaucoup de stagiaires. Hein, je pourrais vous donner le décompte parce que je l'ai devant les yeux, parce que j'ai le bilan annuel. Donc, mais on reçoit beaucoup de stagiaires. On a eu un stagiaire qui est resté longtemps puisqu'il était en master d'archivistique. Donc là, il est resté 3 mois. Mais on a régulièrement des stagiaires qui viennent d'ailleurs pas forcément pour des stages d'observation, mais aussi dans le cadre de secrétariat. Donc c'est très régulier, hein, vraiment, de tous âges, et on est très content. De toute façon, c'est la politique du conseil départemental, hein, d'accueillir des stagiaires. Ça fait partie de notre rôle. On a un service public et ce serait le comble si on refuse un service. Donc on n'en refuse jamais. Et quelquefois, d'ailleurs, on a même c'est des problèmes parce qu'on a plusieurs stagiaires à la fois, mais on est quand même 22. Vous avez compris qu'on a des activités diversifiées. Donc un stagiaire, on peut le mettre. On a eu récemment un stagiaire qui est resté une semaine avec le relieur restaurateur, hein, donc qui a fait son stage qu'en relu restauration, vous voyez, parce que évidemment c'est un travail intéressant, donc il a pu voir ce qu'il en était.
On a l'impression que ce sont pas des métiers dont on parle beaucoup pour les jeunes.
Mais oui, c'est vrai, vous avez raison. En fait, je crois que alors vous savez, moi je suis
alors qu'il en il en faut
bien des, sûr des moi gens. Moi c'est je suis conservateur du patrimoine, et quand on parle des conservateurs du patrimoine, on pense plutôt au musée, vous voyez. Alors après, il y a aussi l'archéologie, il y a aussi les monuments historiques, mais c'est vrai que les musées cachent un peu, vous voyez, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, comme on dit, hein, l'expression. Voilà, c'est vrai qu'on a plutôt cette image là et c'est vrai aussi que les grands musées sont les locomotives, hein, enfin le Louvre, Orsay, etc., hein, ce sont des locomotives, évidemment. Et d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de Jean Favier, hein, donc directeur général des Archives de France de 1975 à 1994, quand même, donc très longtemps, il a traversé plusieurs régimes politiques, enfin voilà, plusieurs présidents, disait toujours, alors on lui reprochait quelquefois, de dire, mais vous comprenez, aux archives dans vos archives, il y a peu de visiteurs par rapport au musée, etc. Mais il disait, mais il ne faut pas comparer, parce que c'est vrai, moi je regarde mon chiffre, l'année dernière nous avons eu 576 lecteurs qui sont venus, hein, ils sont venus plusieurs fois certains. 576, ça paraît très peu, c'est 2 par jour, vous voyez, en moyenne, évidemment, parce qu'en fait, on est fermé aussi à certains moments. 2 par jour, ça paraît peu, vous voyez. En réalité, ce que disait Jean Fabier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas compter, il ne faut pas les considérer comme des visiteurs de musée. Hein, il disait, un visiteur de musée, quelqu'un qui vient visiter un musée une fois dans sa vie, le Louvre, il va passer un quart d'heure, 1 heure, 2 heures dans le Louvre, vous voyez, il va se balader et puis il ne reviendra plus jamais, quoi, vous voyez. Alors qu'un lecteur d'archives, il vient quelquefois plusieurs mois, vous voyez, voire certains, Eric Favre qui a fait son ouvrage, il vient depuis 10 ans, vous voyez, 10 ans quasiment, enfin il est là toutes les semaines, vous voyez, il est là 2 ou 3 fois par semaine. Et puis par ailleurs, il disait Jean Fabier, le lecteur d'archives, en particulier les universitaires, eux, en fait, il faut les considérer comme des auteurs de théâtre ou des acteurs de théâtre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui écrivent les livres que les autres vont lire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui compte, c'est pas le lecteur en tant que tel, c'est ce qui va produire, ce que ne fait pas un visiteur de musée. Voilà. Donc, effectivement, on souffre un petit peu peut-être de cette comparaison. Et dans le métier, d'ailleurs, on distingue bien d'un côté les musées, c'est vrai, hein, et d'autre côté les archives. On est 2 mondes un peu différents. On est regroupés. Il y a d'ailleurs plus de conservateurs d'archives. C'est le contingent le plus important. Hein, je crois qu'on doit être la moitié des conservateurs du patrimoine État, hein, je parle de l'État, sont les conservateurs d'archives. Mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à les expositions, vous voyez, à voir les musées. Et donc, du coup, je pense que les plus jeunes, quand ils... envisage, je sais pas, le monde culturel, vous voyez, et en partie le monde culturel institutionnel, voit plutôt, je pense, les musées que les archives. Or, si on regarde bien, par exemple, dans le département, il y a plus d'agents aux archives que dans les deux musées départementaux. Oui. Auparavant, j'étais en Lozère, mon service, donc il était petit, 13 agents, mais la Lozère, c'est un tout petit département, à 77 000 habitants. On était le plus gros service culturel du département. Vous voyez, pour vous dire qu'effectivement, on a une taille importante et on a besoin, effectivement, de gens qui viennent travailler aux archives, parce que c'est utile aussi, c'est une activité qui est utile, mais qui mélange aussi deux aspects, l'aspect culturel, qui est celui du musée, mais aussi l'aspect administratif, qui est l'autre pan que je n'ai pas évoqué encore, mais qui est la grande activité des archivistes, car en réalité, on gère des archives contemporaines, en fait. Hein. Et ça, ce n'est pas, ça peut avoir avec le domaine culturel. Vous voyez, c'est plutôt un domaine administratif. À tel point, d'ailleurs, que depuis longtemps, il y a eu des revendications pour savoir où se placer les archives. Est-ce que les archives... Alors, elles sont dans le ministère de la Culture. Hein. Avant, elles étaient donc l'instruction publique. Est-ce qu'elles seraient pas mieux à l'intérieur ou rattachées au Premier ministre, oui. Parce que, en fait, leur principale activité est une activité administrative. À tel point, d'ailleurs, que, je le dis fréquemment, nous sommes ouverts comme un service administratif de 9h à 17h, du lundi au vendredi. On n'est pas ouvert les week-ends, on n'est pas ouvert le soir comme un musée, vous voyez. Donc, ce qui pose d'ailleurs quelques difficultés quant à notre activité culturelle qui est de plus en plus importante.
Alors, la politique et les archives, qu'est-ce que vous archivez par rapport à la politique est-ce que...
Par rapport à l'activité politique?
Oui.
Alors, en fait, on a en fait plusieurs types d'archives. On a donc des archives administratives classiques, hein, mais on a aussi, par exemple, quelque chose qui est très politique, c'est les archives des cabinets des préfets. Vous voyez, donc là, il y a des choses tout à fait intéressantes, qui sont protégées d'ailleurs. Hein, vous savez que...
Parce que justement, quand on entend tout ce que oui, on entend
sur
moment,
l'actualité, oui.
Oui, alors par rapport aux enquêtes, oui. est-ce qu'on peut, n'importe qui peut venir...
Non. En fait, il y a des règles de consultation.
Voilà.
En fait, à l'origine, quand on a créé les archives en 1790, c'est les archives nationales, l'idée, c'était de conserver les archives des assemblées, produites par les assemblées. Donc, c'était l'idée, et donc, du coup, que tout citoyen pouvait les consulter. Parce que c'était des archives très politiques, pour le coup, mais qui étaient dans l'action politique. C'était le souci de transparence, hein, vraiment. Mmh. Et donc, l'accès était totalement libre. Et puis... Les fonds d'archives se sont diversifiés, en fait. Et il y a des choses, quand même, qu'on n'a pas envie... Enfin, vous comprenez, hein. Simplement la vie privée, par exemple. On n'a pas envie que certains documents sortent comme ça, facilement, la vie privée, les questions de santé, parce qu'on a aussi des documents... je ne sais pas, si vous prenez un dossier administratif d'un instituteur, par exemple, vous avez à l'intérieur ses congés maladie, etc. Enfin, vous avez des éléments qui... Il y a même quelquefois des rapports de médecins qui sont tout à fait explicites. Vous voyez, donc, ça, c'est protégé. Il en est de même pour l'administration. Il y a un secret de l'administration et ce secret est protégé. Donc, il y a des délais de consultation. La vie privée, c'est 50 ans. Et plus on va vers le médical, et le médical étant le mieux protégé, on va dire. Mm-hmm. Hein. Mais le judiciaire, c'est 75 ans. Donc, voilà. Mais on peut quand même demander à consulter. Car il y a un système dérogatoire, en fait. C'est-à-dire qu'on peut demander. Donc, je vais prendre un exemple très concret. Les archives de la Deuxième Guerre mondiale, elles étaient un petit peu ouvertes, mais elles étaient encore dans le délai des 75 ans pour toutes les affaires judiciaires. Or, évidemment, les historiens et d'autres, hein, des gens ordinaires, s'intéressent à savoir, à connaître, par exemple, la collaboration, vous voyez, qui était vraiment collaborateur, qui était vraiment résistant. Or ces documents, en particulier pour la collaboration, n'étaient pas consultables directement. Mm-hmm. Et donc, il fallait demander une dérogation qui était accordée et qui a un caractère, qui a un caractère arbitraire, puisqu'en fait, c'est hors de la loi. La loi prévoit une dérogation et c'est à l'appréciation de celui qui va donner l'autorisation. Et c'est compliqué parce qu'il y a trois acteurs dans l'autorisation. Il y a celui qui détient l'archive, donc le directeur des archives, si c'est une cour qui a un rapport avec le département. le producteur du document, donc la justice, donc le procureur de la République qui donne aussi un avis, et enfin les archives de France, qui donnent ou pas l'autorisation en fonction des avis qui ont été donnés, et puis sa propre évaluation par rapport aux autres départements, parce qu'eux, ils ont une vision d'ensemble. Ouais, donc ça, c'est quand même une procédure qui n'est pas simple, et qui existe toujours, hein, qui est toujours valable. Voilà. Eh bien, on a décidé, il y a très récemment, donc en décembre 2015, d'ouvrir totalement les archives de ces juridictions d'exception, en particulier les cours de justice qui ont jugé les collaborateurs. Vous voyez, parce qu'on considère que maintenant, on est comme assez loin, qu'il est utile que le citoyen ordinaire puisse aussi accéder, parce que les chercheurs avaient les dérogations, mais les citoyens ordinaires, c'était pas évident. Il fallait justifier vraiment d'une raison, d'une bonne raison pour consulter soit un parent, ça pouvait être un parent hein, qui a été jugé, soit une recherche dans un certain cadre, mais dans quel cadre, etc. Mmh. Voilà, donc voilà, c'est pour vous dire que, en fait, vous avez raison, tout n'est pas consultable. Mmh. Et heureusement, sans doute. voilà. Et Jean-Favier disait, c'est amusant parce que vraiment, je suis dans sa biographie. Donc enfin, c'est pas sa biographie. En fait, c'est un ouvrage qu'il a écrit, hein, qui en fait un peu ça, raconte son itinéraire en fait. Et ça s'appelle Les Palais de l'Histoire, hein, puisqu'il il était aux Archives nationales et puis aussi à la Bibliothèque nationale. Et il dit, en fait, qu'on lui reprochait souvent le système américain, vous savez, l'ouverture, etc. Mais lui, il rétorquait, oui, mais attendez, en Amérique, vous n'avez pas connu l'occupation, la collaboration, l'épuration, vous voyez. Mmh. Donc évidemment, vous n'avez pas un système de sécurité sociale généralisé, vous voyez. En France, vous avez tout. Enfin, je veux dire, dans un service d'archives, vous avez des choses absolument... Vous avez ce qui concerne la santé, la justice, l'administration, l'école. Vous avez des documents qui sont quand même très sensibles, vous voyez, ce qui n'est pas forcément le cas partout ailleurs. Vous voyez, donc du coup, il y a, je pense, la nécessité de protéger. Vous savez, c'est toujours le problème. On est dans une tension hein, entre la nécessité de la recherche, hein, la nécessité de la clarté et de la transparence et puis la nécessité de protéger. Et Jean-Favier disait toujours, quand on discutait de ces délais de communication, il disait toujours, en fait, tout le monde voudrait que ce qui concerne les autres soit ouvert, mais surtout pas ce qui le concerne. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu, donc il faut trouver toujours la solution moyenne. On a une certaine latitude en tant que directeur aussi à apprécier la situation. En réalité, et puis il faut aussi, je pense aussi, moi je fais confiance aux gens, enfin je veux dire, quand par exemple une dérogation est accordée, la personne n'a pas le droit par exemple de reproduire le document, mais quand elle l'utilise, c'est aussi sa responsabilité, vous voyez, si elle engage l'honneur de quelqu'un, c'est à elle à rendre des comptes, vous voyez, donc il y a aussi, il faut aussi responsabiliser les gens, et il faut faire confiance aussi à leur capacité justement à être responsable.
Moi, je vous ai fait peut-être dévier certainement de tout ce tout, que vous aviez prévu de nous dire.
J'ai absolument pas dit ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Voilà. Hein, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Je vois que l'heure tourne. Oui. Je vais peut-être évoquer notre actualité, peut-être.
Bien sûr,
voilà,
bien
parce
sûr.
Qu'au mois de mars, nous sommes au mois de mars, et après, les choses seront un peu différentes parce que nous allons rentrer dans la période de réserve électorale. Hein, vous savez, pour nous, ça va diminuer nos activités. Mais on aura toujours nos expositions, etc., et nos lectures d'archives. Donc, le jeudi 9 mars, à 18h30, aux archives départementales, donc à Digne-les-Bains, nous proposons donc une lecture d'archives qui s'appelle « À table », qui sera donc réalisée par la Mobile Compagnie. Alors, c'est une lecture qui est en lien avec notre exposition itinérante hein, que nous avons inaugurée en octobre l'année dernière. C'est une première, hein, c'est une création. Donc ça sera une surprise aussi bien pour les spectateurs que pour moi, parce que je ne sais pas du tout ce qu'ils vont proposer. Et pour la cerise sur le gâteau, on va dire, comme c'est une lecture qui sera juste avant presque l'heure du repas, vous voyez, et que je pense que quand même l'idée, c'est que avec cette lecture, vous voyez, on est... le goût de déguster, voilà. Et donc on proposera une petite dégustation juste après la lecture, voilà, de quelques plats, voilà. Et puis le 10 mars, donc le lendemain, alors on les a mis ensemble parce que après on va rentrer dans la période de réserve électorale, donc je ne pourrai plus moi intervenir, hein. Vous savez que les fonctionnaires ont un devoir de réserve lié donc à cette période particulière. Donc le lendemain, le 10 mars, toujours aux archives départementales, à 18h, je ferai une conférence sur Guy Maire. Alors Guy Maire, c'est l'as des as de la Première Guerre mondiale jusqu'à sa mort, puisqu'après, ça sera Fonck hein, qui prendra sa place. Cette conférence, s'intéresse à la personnalité, surtout à la construction du héros, hein, c'est-à-dire que comment ce jeune homme, en fait, hein, puisqu'il était très très jeune, et il est mort d'ailleurs très jeune, est devenu en fait une figure de la Première Guerre mondiale, à tel point qu'il a développé une légende. Voilà, donc je vais m'intéresser donc à la construction de cette figure de la Première Guerre mondiale, donc le 10 mars à 18h. Voilà. Nous allons continuer ensuite hein, par des lectures d'archives, un classique, que nous ferons d'ailleurs en dehors. Ces deux activités, c'est aux archives départementales, mais après nous partirons à Anotte, etc. Mm-hmm. Hein, donc dans d'autres lieux, comme d'habitude. Parce que je le rappelle toujours notre principe, hein, c'est évidemment de nous décentraliser le plus possible. Hein, nous sommes un service départemental. Et donc l'objectif, c'est pas de faire tout pour Digne, mais c'est aussi d'aller dans les villages. Moi, je suis toujours très, 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 très heureux de l'accueil qu'on y reçoit. Hein. On est toujours bien reçu et c'est toujours très agréable. Puis ça permet en fait un peu de faire de géographie, de rencontrer des gens qui essaient de faire vivre, de créer une vie culturelle en fait, hein, et de maintenir une vie culturelle dans des coins qui sont parfois un peu éloignés des grands centres. Et voilà, on participe un peu à cette activité-là. Donc on va continuer à maintenir au moins une fois par mois ce genre d'opération. Et pour nous, comme vous le savez, ce sont les lectures d'archives hein, qui sont les plus importantes. Voilà. Mmh. Et puis, nous allons évidemment continuer. Donc, on parlait tout à l'heure des scolaires. Hein, on avait parlé des...
Des stages
d'opération. Mmh. On reçoit beaucoup, de plus en plus, donc, de scolaires et d'ailleurs aussi du public universitaire hein, donc, dans le service. L'année dernière, on était à plus de 1600 élèves reçus ou rencontrés, parce qu'on se déplace aussi, hein, le service éducatif se déplace. C'est-à-dire, en fait, c'est notre record. Hein, donc, et comme vous savez, les records sont faits pour être battus, mmh. on va essayer de dépasser encore ce chiffre. Hein. On est bien parti d'ailleurs, parce qu'on a un planning déjà qui est bien chargé jusqu'au mois d'avril. On est presque, vous voyez, à prendre des rendez-vous maintenant pour le mois de mai. Donc c'est pour vous dire, hein, vraiment. Mmh. Et puis là, on a reçu, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'on a reçu, donc on reçoit beaucoup de collégiens et beaucoup de primaires, et on reçoit aussi maintenant des étudiants de l'IUT, qui viennent régulièrement travailler sur des thématiques qui sont données par leurs enseignants. Et vous voyez, lundi, par exemple, toute la journée, nous avons eu plusieurs étudiants qui sont venus avec leurs enseignants travailler sur les risques naturels. Et puis la semaine précédente, moi, j'avais reçu avec mon adjointe, Madame Franek, des étudiants de deuxième année d'histoire de l'Université d'Aix qui sont venus visiter le service. Donc, ils sont passés la journée hein, à voir ce qu'était un service d'archives, hein, ce qui est quand même un petit peu utile pour un étudiant d'histoire, hein, quand
Bien
même.
Mm-hmm.
Hein, d'autant plus qu'ils n'avaient jamais mis les pieds, mm-hmm. ce qui est tout à fait normal. Hein. Moi, la première fois que je suis rentré dans le service d'archives, c'était en deuxième année d'histoire, parce mm-hmm. qu'un enseignant nous avait demandé un travail sur un sujet à choisir dans un service d'archives départemental. Donc, du coup, on est très heureux de les accueillir. Et puis, quelques jours auparavant, on avait accueilli un autre groupe de l'IUT qui était venu donc travailler sur de l'histoire rurale, sur des sources notariales. Oui, donc, on est aussi très content d'avoir cette... un petit peu cet écart entre des primaires, vous voyez, avec leur vision des choses et donc les étudiants. Et ce qui permet aussi, d'ailleurs, au service éducatif de proposer d'activités diversifiées. Évidemment, il s'agit d'adapter nos interventions au niveau. On ne peut pas faire évidemment ce qu'on fait avec l'un, ce qu'on fait avec l'autre. Voilà, donc voilà, c'est aussi intéressant.
Eh bien voilà, ça va être le moment de se quitter.
Je crois, oui, c'est vite passé. Voilà.
On va écouter Nora Jones. Voilà. Et on se retrouve donc jeudi 16 mars
Très bien.
À 9h15.
Très bien. À
Merci
bientôt.
Jean-Christophe Lavadie,
Merci
à bientôt.
À vous.
Au revoir.
Au revoir. Locked, but I found the key.